Donc, bonjour, je suis Olivier Gadefin, je suis professeur documentaliste au lycée professionnel Pablo Picasso à Périgueux et je suis également représentant du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information dans le département de la Dordogne.
Très bien, merci beaucoup de cette présentation. Moi, c'est une question qui n'est pas dans ce que j'avais écrit, mais est-ce
Oui.
que vous pouvez me parler un peu de votre métier de documentaliste et m'expliquer un peu en quoi ça consiste au quotidien?
Alors, d'abord, on dit bien professeur documentaliste, et ça,
Excusez-moi,
on y
excusez-moi.
tient.
Vous avez bien
C'est pas
raison, vous avez
grave.
bien raison.
Alors, c'est vrai que on a tendance à abréger en documentaliste depuis longtemps. D'abord, on est recruté par un CAPES. Je fais d'ailleurs partie du jury du CAPES externe de documentation. Et puisque vous me posez l'accent sur le quotidien, mais il est lié directement aux missions qui sont de plusieurs ordres. Ce qui vous intéresse peut-être en premier lieu, l'éducation aux médias et à l'information, qui n'est pas forcément d'ailleurs la partie la plus connue du grand public. Plus connu certainement le fait d'être responsable du CDI, du Centre de documentation et d'information, des collèges et des lycées, donc sur toute la France, puisqu'on a au moins un professeur ou une professeure documentaliste, c'est souvent féminin, dans les collèges et les lycées, hein, publics comme privés. L'accueil donc des élèves qui viennent sur leur temps libre au CDI pour lire, pour faire des recherches documentaires, pour travailler en autonomie, seul ou en groupe. Donc on est là pour accueillir, aider, guider ces élèves. Et puis donc, bon, il y a un aspect aussi de gestion documentaire, ça c'est aussi davantage connu, gérer des documents physiques comme des documents numériques pour notre public, hein, qui est public de collégiens, de lycéens et nos collègues enseignants. Et puis donc, on a une mission d'enseignement, d'où le titre professeur documentaliste. En éducation aux médias et à l'information, je l'ai dit, mais aussi, on a la dimension d'éducation artistique et culturelle, pour laquelle d'ailleurs il y a des liens, bien sûr, avec l'EMI, si on pense aux images, notamment en lien avec la lecture, mais pas seulement. Moi, par exemple, je suis plutôt spécialisé en cinéma. J'ai des collègues qui vont être peut-être plus à l'aise, je sais pas, en art plastique, en théâtre, en musique, que sais-je.
Très bien. Justement, en tant que professeur documentaliste, vous devez voir beaucoup d'étudiants au quotidien. Ma question est par rapport à ça. Il y a une surabondance permanente d'informations en ligne. Comment enseigner aux jeunes de vérifier la fiabilité des sources en fait qu'ils consultent?
Alors, je dirais d'abord que c'est un travail qui se fait sur le temps long, qui lui-même est mené de longue date, en tout cas par le CLEMI et justement par les professeurs documentalistes, qui ont plutôt été pionniers dès l'apparition de l'Internet grand public, on va dire à la fin des années 90, début des années 2000. Alors après, c'est intéressant que cet enseignement se fasse plutôt en situation, dans un contexte de recherche d'informations réelles pour les élèves, dans le cadre d'un projet par exemple, où là, ça mobilise vraiment un besoin d'informations liées au contexte scolaire. Alors après, en termes de méthodologie, c'est un peu ça ce que votre question, hein, comment enseigner? On peut citer une méthode, qui est une méthode canadienne. Hein, les Canadiens et les Québécois sont très en pointe sur ces questions-là. Ils ont inventé une méthode. Nous enseignons, nous, certains formateurs du CLEMI, qui est la méthode 3QPOC. Alors, pour faire vite, il s'agit en fait de passer donc par un questionnement pour les élèves, donc lié à l'information en ligne, pour en évaluer la fiabilité, à savoir qui produit cette information. Donc ça, c'est l'un des 3Q. Dans les 3Q, il y a qui, quoi, quand. Donc qui produit l'info? Est-ce que c'est une autorité connue, reconnue? Est-ce qu'on a un auteur mentionné, un groupe d'auteurs? Le quoi, bien sûr, c'est par rapport au contenu. Est-ce que déjà le contenu, en tant qu'élève, on le comprend? Si on ne le comprend pas, nous, on suggère aux élèves, bien, de le mettre de côté, qu'il soit fiable ou pas, mais il faut déjà comprendre ce qu'on lit ou ce qu'on voit dans une vidéo, ce qu'on entend dans un podcast ou en direct. Et puis, bien sûr, c'est lié aussi à la pertinence. Est-ce que le quoi est pertinent par rapport au sujet de recherche? Le quand, bien sûr. Est-ce que l'information par rapport au sujet est dans la bonne limite temporelle? Si l'information est trop ancienne sur un sujet d'actualité brûlante, ce serait évidemment pas fiable pour l'élève. Le pourquoi, Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas toujours simple pour nos élèves, surtout les plus jeunes. Pourquoi une information est mise en ligne? Est-ce que c'est pour nous informer, je dirais de manière plus ou moins désintéressée? Est-ce que c'est pour nous influencer? Est-ce que c'est pour nous vendre quelque chose? Est-ce que c'est pour, après, dans l'influence, est-ce qu'elle va être politique, commerciale, syndicale ou autre? Et bien sûr, bah, d'où le haut, hein, c'est d'où provient l'information. Donc, est-ce qu'on a des sources qui sont citées? Est-ce qu'on peut croiser avec d'autres sources? Et puis, le C, c'est le comment est présentée l'information? Si l'information est illisible, vraiment très difficile dans sa présentation, dans sa mise en scène, sa mise en page. Évidemment, on va plutôt tendance à rejeter cette source. Et donc cette méthode 3QPOC, non, je vous en parle vraiment parce que je l'ai mise en œuvre la semaine dernière. Donc voilà, avec un groupe d'élèves de mon lycée, donc lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux, j'ai un groupe d'élèves en première bac pro commerce et qui prépare hein, vraiment dans le cadre de leur enseignement qui s'appelle projet. C'est nouveau dans la réforme du bac pro. Et avec une intervenante qui est une spécialiste de la radio, qui est formatrice au CLIMI avec moi, on leur fait préparer des sujets radio. Et le thème, c'est l'exposition de soi sur les réseaux sociaux. Ils vont préparer une émission de radio en direct, d'ailleurs pour la semaine de la presse et des médias dans l'école au mois de mars. Et en effet, je ne veux pas anticiper sur vos questions, mais on se rend compte que ce sont des éléments auxquels ils vont être sensibles en milieu scolaire. J'ai des lycéens, hein, je rappelle. Hein. C'est évidemment pas la même chose avec des cinquièmes, des quatrièmes. Bien sûr, hein. Là, on est en lycée. C'est des choses qu'ils ont déjà entendues, qu'ils ont déjà plus ou moins pratiquées. Donc, ils vont faire attention. Ils font rarement attention à l'ensemble, ce qui est pas une démarche naturelle. Hein. On n'est pas là pour blâmer hein, les élèves. Après, le risque, je dirais, dans l'enseignement très systématisé de la fiabilité des sources en ligne, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le système éducatif français quand même, mais ça a été documenté par des chercheurs, c'est le risque, en fait, de conforter des élèves qui seraient vraiment dans le complotisme, dans le conspirationnisme, c'est-à-dire à trop vouloir insister sur la fiabilité des sources, ça a tendance à avoir l'effet inverse sur certains. Pas sur tous, hein, pas sur la majorité, mais ça a tendance évidemment à renforcer les certitudes, ce qui peut paraître paradoxal, mais le complotisme, c'est une forme de certitude sur l'incertitude. Donc, pour nous, la vraie difficulté, c'est de rester dans l'esprit critique sans être dans la critique absolue de tout. De toutes les informations, de toutes les autorités, parce que c'est un vrai problème de nos jours, c'est justement avoir une certaine mesure et dire aussi parfois, même nous en tant qu'adultes, on ne sait pas trop si cette source c'est fiable, donc j'ai tendance à ne pas l'utiliser, savoir s'abstenir un peu dans le doute aussi. Et ne pas justement, parce qu'il y a doute, se dire ah oui, mais il y a une explication cachée, voilà. Voilà, c'est essayer de maintenir un petit peu une position médiane.
Justement, j'imagine que vous essayez d'avoir une moyenne, mais le problème, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les jeunes voient ça quand ils sont à l'école, mais quand ils rentrent chez eux, il y a aussi des applications qui fournissent des algorithmes. Je voulais un peu parler un peu de ça avec vous. Comment vous pouvez éduquer les jeunes à reconnaître l'impact des algorithmes sur l'information qu'ils consomment? C'est-à-dire sur, effectivement, on peut parler du complotisme. Quand on entre dans des informations complotistes en général, on n'a plus que ça sur certaines applications. Et donc, comment on peut se prendre du recul face aux bulles de filtrage que nous imposent les réseaux sociaux?
Déjà, enseigner précisément les bulles de filtre. Moi, j'ai un groupe d'élèves qui va en parler dans l'émission qu'ils vont préparer. C'est une notion en effet extrêmement importante, dont ils n'ont pas forcément conscience, notamment au plus jeune âge. Donc, ça peut s'enseigner. Pareil, sans anticiper sur d'autres questions. En fait, les programmes de l'éducation nationale ont réellement avancé sur ces questions. Et c'est tant mieux, à savoir au collège et au lycée, généraux comme professionnels, On a vraiment dans les programmes la fabrication de l'information, le rapport critique à l'information, les aspects économiques aussi de l'information. Donc c'est des choses qui normalement sont traitées souvent, alors en éducation morale et civique, qui parfois peut être un peu un parent pauvre, puisque c'est englobé dans l'histoire et la géographie. Parfois aussi, c'est fait quand même par les profs de français, voire de sciences économiques et sociales au lycée, et donc par les professeurs documentalistes, qui sont en appui de leurs collègues, puisque nous, c'est notre spécialité, l'éducation média et l'information. On est recruté en étant sélectionné sur ces questions-là. Donc, les bulles de filtre, notion importante à faire comprendre aux élèves. Et je vais vous prendre un exemple concret, c'est vrai, récent justement. Donc d'élèves qui étudient cette question. Très bien d'ailleurs, ils nous montrent d'où ça provient, qui a inventé le concept, comment ça fonctionne, la question des algorithmes. Mais ils me disent, ça m'a surpris, mais finalement, les recommandations pour lutter contre les bulles de filtre nous ennuient parce que nous voulons recevoir, nous, des posts, des images relatifs à nos centres d'intérêt.
Ils veulent avoir une bulle de filtre contrôlée en quelque sorte. Enfin, c'est ce que j'en retire de ce que vous me dites, c'est un peu ça.
Oui,
Ça ne leur déplaît pas.
on pourrait le voir comme ça. C'est-à-dire que nous, évidemment, en tant qu'éducateurs, on peut trouver ça dommage, puisqu'on aimerait qu'il y ait une ouverture des élèves à autre chose qu'à leur zone de confort, qu'à leur sujet familier, même si on comprend, et tant mieux, qu'ils peuvent avoir des passions, et c'est bien. Mais comme vous dites, oui, ils ont conscience qu'il faut filtrer, mais au sein de leur sphère d'intérêt. Ouais, tout à fait.
Et c'est important de garder pour eux leur, disons, bulle. Pour moi, c'est une espèce de bulle contrôlée qu'ils souhaitent avoir auprès d'eux. Je comprends tout à fait, enfin, je les comprends pas spécialement, mais je comprends leur démarche.
Alors après, comme vous dites, hein, certains sont enfermés dans le complotisme. C'est rarement exposé quand même devant les enseignants. En tout cas, j'ai pas trop d'expérience en Dordogne, peut-être des départements plus sensibles. C'est rarement revendiqué parce qu'ils se savent minoritaires quand même. Faut pas être suralarmiste par rapport à ça. Mais une fois de plus, il y a une forme de fermeture au fait d'entendre un point de vue qui soit différent. D'une possibilité de critiquer en tout cas une représentation du monde qui soit liée à une forme de complot ou de conspiration.
Très bien, merci beaucoup pour tout ça. Je voulais justement intégrer, vous avez parlé tout à l'heure que l'éducation nationale avait beaucoup évolué sur les sujets qu'on abordait depuis le début. C'est tant mieux parce que moi quand j'étais plus jeune, alors je suis pas très vieux, j'ai 24 ans, mais quand j'étais au collège slash lycée, on va dire, c'était pas forcément là dans l'éducation, malheureusement, on ne nous en parlait pas forcément tout le temps. Mais ce qui arrive depuis peu, alors je dis depuis peu, mais ça fait déjà quelques années, c'est l'intelligence artificielle. Ce que j'entends par là, évidemment, c'est ChatGPT, je vais le dire, hein, c'est vraiment une intelligence artificielle qui nous aide au quotidien, enfin, qui veut nous aider au quotidien. Est-ce que vous pensez justement qu'il est urgent d'intégrer une éducation spécifique à l'IA dans les programmes scolaires, ou est-ce que c'est déjà fait? Ça se trouve, vous allez me dire non, c'est bon, on y est déjà, parce que ça présente des risques, je pense, non?
Oui, alors non, à ma connaissance, on n'est pas encore, l'IA n'est pas intégrée dans les programmes pour la simple et bonne raison que vous avez évoqué ChatGPT, on est dans les IA génératives, où ce qui est plutôt recommandé d'ailleurs, c'est le système algorithmique d'aide à la décision qui est plus précis, puisque justement, ce qui serait intéressant d'enseigner avec les élèves, et on n'y est pas encore, donc. C'est de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la même chose que le fonctionnement neuronal. Ce n'est pas un être humain en quelque sorte robotisé, cloné. Il y a quand même des différences. C'est la première chose. Après, l'éducation nationale s'en est emparée. Donc depuis oui, l'émergence de ChatGPT ouvert à tous en 2022. Donc depuis 2 ans et pour rien vous cacher, donc le CLEMI que je représente travaille de manière prioritaire actuellement sur la question de l'éducation, donc à l'IA pour faire vite, notamment donc aux IA dites génératives, mais une fois de plus, c'est le terme grand public. Il y a déjà, nous, des formations de proposer sur cette question-là, hein. Moi, j'en ai suivi une l'an dernier, par exemple. Donc, déjà, en tant qu'enseignant, on peut se former à l'intelligence artificielle. Les formateurs sont également formés. On a le réseau Canopé aussi, donc, qui propose des formations aux enseignants. Mais c'est vrai qu'on attend peut-être davantage que ces questions soient intégrées dans les programmes pour que ça puisse vraiment que ça puisse être enseigné dans une large échelle.
Ce que j'allais vous dire justement, c'est effectivement de manière logique, les enseignants doivent être d'abord pleinement conscients de ce que représente l'IA avant de pouvoir l'enseigner justement aux enfants, aux adolescents, quoi.
Complètement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est vraiment confrontés à ça au Clémy depuis l'origine. Hein. Imaginez, ça date de 1982. Donc, à l'époque, évidemment, il y avait déjà des formes d'intelligence artificielle, mais qui n'étaient pas connues du grand public. Hein. Donc, nous, on a dû s'adapter sans cesse aux évolutions technologiques. Et c'est vrai qu'une partie du travail du Clémy, en tout cas, les collègues du Clémy national, notamment, qui sont plutôt sur les aspects de recherche, c'est comment faire en sorte qu'on puisse éduquer de manière raisonnée à toutes ces nouvelles technologies qui sont liées donc à l'information, aux médias, à la communication, pour faire vite. Donc, on est toujours forcément un peu à la traîne des évolutions technologiques et de leurs usages, surtout notamment par les jeunes. Alors, sur l'IA, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des questions en fait du travail scolaire, finalement, qui serait effectué par des IA et plus directement par des élèves. Hein, c'est ce qui a attiré l'attention, je crois, beaucoup dans le champ médiatique. Et c'est vrai qu'il y a déjà hein, des modifications dans les pratiques. On voit en effet de plus en plus de collègues qui ne donnent plus d'évaluation à la maison, par exemple. Avant, il y avait des intelligences réelles, il y en a encore. Hein, on fait faire le devoir par les parents, le
Oui, bien sûr. Ah
grand-frère,
oui, d'accord.
voilà.
Oui. Ça existait déjà, la
Donc,
triche, hein, évidemment, oui.
voilà, ce type de triche existait, mais enfin, c'était quand même coûteux en temps, en compétences,
Et
etc.
pas sûr que papa connaisse la
Là,
réponse au problème, en plus.
voilà, c'est ça. Il pouvait y avoir exactement parfois des notes moins bonnes par les parents que par les enfants, ça c'est vrai. Alors l'IA, d'abord on s'est rendu compte, même si ça évolue très très vite, que ça n'était pas forcément toujours exactement dans les attentes des enseignants, dans les attentes scolaires, mais maintenant c'est vrai que on a des IA qui sont quand même plutôt très performantes. Donc, on évalue sur table, sans smartphone, avec un stylo. Voilà. Donc, on peut limiter voilà, le champ de l'évaluation. Ça, c'est une chose. Et puis, bon, ça, c'est l'aspect restrictif. Mais nous, on plaide évidemment au Clémy pour un aspect éducatif. Donc, d'une part, en effet, éduquer à tout ce qui peut être de l'ordre de la manipulation, finalement, comment on peut créer du fake, ou en tout cas des images qui vont pouvoir appuyer des propos manipulateurs, complotistes, mais ça peut aussi être positif, lié à un intérêt pédagogique, il y a déjà des collègues qui s'en emparent, en faisant, par exemple, créer des images, notamment par des intelligences artificielles génératives. Moi, j'ai un exemple de séance pédagogique en littérature, puisqu'on dit, bon, les jeunes
Ils
ne
lisent
lisent
plus.
plus. Voilà, bon, pas totalement vrai. Voilà,
Exactement. Ils
je
lisent
suis bien
plutôt des
placé
choses qui
pour le
les
savoir.
intéressent, on va dire ça comme ça, je crois. Si je me trompe pas, mais déjà quand j'étais au lycée et collège, c'était ils lisaient. J'ai des amis qui lisaient, mais ils lisent des choses de science-fiction. J'ai un ami qui lit, il lit beaucoup, mais il lit Le Seigneur des Anneaux. Donc forcément, ça paraît éloigné de ce qu'on aura envie qu'ils lisent.
Oui, encore ça devient légitime, on va
Oui,
dire.
voilà.
Ce type de littérature commence à devenir légitime, mais on va plutôt avoir des filles qui vont lire de la New Romance. Voilà, ça c'est
Ah,
très 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 à
d'accord.
la mode. Alors, je caricature, hein, et des
Bien sûr.
garçons qui lisent des mangas. Voilà, bon. Donc, on a des élèves lecteurs, mais en effet, ce qui est logique à l'adolescence, ils vont pas forcément aller vers ce qui est prescrit par les adultes. Cela dit, après, c'est une autre influence. Ils vont se faire influencer par le marketing, par les pairs aussi, bien sûr, par ce qui est populaire, justement, sur les réseaux sociaux. Alors, pour revenir, pardon, donc à cette séance pédagogique en littérature, on a une collègue qui, en lycée général, donc doit faire étudier des textes littéraires classiques, donc avec, par exemple, Le Rouge et le Noir, hein, des romans de 500 pages
Scandale,
classiques, qui ne sont pas forcément toujours faciles d'accès pour les élèves. Et elle s'est dit, pour que les élèves s'approprient les personnages, certaines situations clés du roman, je vais leur faire créer des images par IA générative. Et là, ce qui est intéressant, c'est elle, ça lui permet de voir finalement comment les élèves ont compris le roman en images, ce qui est original, et pas nécessairement directement par un texte classique. Et ça, en fait, elle s'est rendue compte que ce qui compte énormément, c'est ce qu'on appelle l'art du prompt,
C'est ce que j'allais
c'est-à-dire
dire, oui,
comment.
c'est par un prompt, donc elle décide de voir l'image finale, et donc elle cherche ceci, quoi, elle cherche un beau prompt.
C'est ça. Et en fait, ça fait travailler la précision de la langue et la précision de la description. Comment bien décrire l'image que l'on souhaite créer. Donc, il y a un travail de création, il y a un travail d'appropriation donc de l'IA générative. Quand on comprend, je pense, bien les codes, quand on peut les appliquer quand même à un domaine savant, sur la littérature classique, ça peut quand même être très intéressant de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire de rester dans une appropriation littéraire, dans une compréhension d'une œuvre complexe, et dans la création par une IA générative à des fins comme ça de restitution, finalement, d'une compréhension d'une œuvre. Donc c'est un exemple, hein.
C'est un bon
Mais
moyen, effectivement, oui. C'est un bon moyen.
ce qui fait que je pense qu'enseigner l'IA, c'est ne pas entrer dans la diabolisation, ce qu'on a naturellement tendance à faire, hein, ça fait partie des fameux biais cognitifs. C'est nouveau, donc ça fait peur, donc ça va remettre en question l'autorité des enseignants. Ça va faire en sorte que les élèves travaillent moins, etc. Voilà, il peut y avoir une crainte en effet assez forte, liée pas forcément directement dans l'enseignement, mais à la question de l'emploi. Hein, au-delà, hein, mais même pour les élèves, pour leur avenir, hein, pour leur orientation. Là, c'est dans la dimension orientation, ça questionne aussi les élèves, hein, l'évolution de l'intelligence artificielle. Mais je pense que pour revenir à ce qu'on disait au début, ça nécessite justement d'avoir ce rapport à la fiabilité des sources en ligne. Et ce que nous, pour l'instant, puisqu'on est déjà confronté à cette question d'IA, ce qu'on dit nous aux élèves, quand je dis nous, professeurs documentalistes, professeurs confrontés à cette difficulté, c'est attention, on a quand même beaucoup d'IA générative qui ne publient pas leurs sources. Donc, vous pouvez avoir un rendu de qualité. Moi, je le nie pas, mais attention, il y a une sélection de sources que l'on ne connaît pas. Il peut y avoir justement un point de vue, ça peut être orienté sur des questions un peu sensibles. Il y a certaines sources qui ne sont pas utilisées. Donc, bah, on leur apprend justement à être plus critiques, plus suspicieux, mais sans entretenir le conspirationnisme. Hein, c'est toute la ligne de crête qui est complexe de dire non, tout n'est pas faux, non, tout n'est pas manipulé,
Mais tout n'est
mais
pas vrai non plus.
tout n'est pas vrai non plus. Voilà, on est dans cet entre-deux.
En fait, l'IA n'invente rien. J'imagine c'est ce que vous devez leur répéter très souvent. C'est que l'IA n'invente rien. Elle pioche, pardon, dans des choses qui sont déjà existantes et elle les régurgite, entre guillemets, de manière synthétique pour qu'on puisse le comprendre. Mais l'IA n'invente pas des sources. Voilà, elle n'invente pas des choses. Donc, si quelqu'un a fait une erreur dans une source un tel, elle ne va pas faire la différence avec autre chose, quoi.
Complètement, sur la question de la fiabilité, c'est le mélange exactement entre ce qui peut être fiable et ce qui ne l'est pas, et ça va être compliqué pour un élève, mais y compris pour un adulte, de repérer ce qui va être fiable de ce qui ne l'est pas à l'intérieur de la production de l'IA. Et comme vous le dites, l'IA n'invente rien, elle remodèle, souvent de manière qualitative maintenant. Et je pense que ça donne sens aussi aux apprentissages scolaires. C'est-à-dire que c'est bien par la connaissance qu'on va pouvoir aussi être davantage critique sur ce qu'on nous propose. Parce qu'on peut avoir des outils, comme je les ai exposés, mais sans les connaissances, on va avoir du mal à activer aussi cet esprit critique.
Très bien. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Je vois que ça fait un petit moment déjà qu'on est au téléphone. Est-ce que il vous reste 5-10 minutes pour répondre à ma dernière petite
Oui.
question? Oui? Parfait.
Oui.
Rien à voir avec l'IA cette fois, même si ça touche toujours les médias, évidemment. L'éducation aux médias doit-elle inclure une réflexion sur l'impact psychologique des réseaux sociaux? J'entends par là le terme de la désinformation, évidemment, mais aussi l'image de soi-même et le bien-être mental des jeunes qu'on entend évidemment sur les réseaux sociaux qui peuvent détruire très rapidement.
Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est déjà le cas, hein, je vous rassure. Non, c'est vrai, le CLEMI, là on parle d'intelligence artificielle de manière très, très importante depuis 2 ans. Mais les questions de cyberharcèlement sont à l'agenda du CLEMI depuis une dizaine d'années.
Et ça, j'ai souvenir par contre d'en avoir parlé effectivement quand j'étais scolarisé.
Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Depuis une dizaine d'années, on a une journée nationale de la lutte contre le harcèlement. C'est le 7 novembre. Et puis. Il y a un programme phare dans l'éducation nationale, phare, hein, PHARE, qui c'est un acronyme aussi, qui vise à former à terme l'ensemble des enseignants et des personnels éducatifs à la question du harcèlement, du cyberharcèlement, mais donc plus spécifiquement en lien avec l'éducation média à l'information, la question, oui, du cyberharcèlement est traitée par le CLEMI. D'ailleurs, il y a un guide qui est mis à jour quasiment chaque année, le CLEMI de l'Académie de Bordeaux, publié. On est les seuls en France, on est fiers. C'est à destination des chefs d'établissement, bon, pour savoir voilà comment réagir en cas de crise. Donc la crise, ça implique aussi des aspects psychologiques. Peut-être, en effet, hein, c'est vrai. Votre question est très pertinente. Moi, ça fait très longtemps que je pense que nos collèges et lycées manque d'un type de personnel qui sont des psychologues cliniciens, pour faire vite, puisqu'on a en plus, on le sait, hein, notamment depuis la crise du Covid, les troubles anxio-dépressifs concernent 25% hein, de nos élèves, ce qui est considérable. Ils ne sont pas toujours traités à l'extérieur des établissements. Donc déjà, on a de toute façon un besoin structurel par rapport à ces questions-là, sans parler des personnels, ça peut aussi être une problématique, mais là vraiment sur les élèves. Et c'est assez souvent relayé, en effet, par un problème cyber, alors phase 1 d'intimidation, on va dire, et puis lorsque c'est vraiment répété, on est dans le harcèlement. Alors, on a des outils quand même maintenant dans l'éducation nationale. Il y a eu des affaires médiatisées. La seule chose, voilà, moi ce que j'espère, c'est que la culture du pas de vague, je le dis, voilà, va régresser. Je pense que c'est le premier obstacle. Il y a d'une part la nécessité de former, c'est vrai, l'ensemble des personnels. Moi, j'ai eu la chance d'être formé. Bon, je dirais, voilà. Parce que j'ai été confronté tout simplement avec ma fille, hein, donc ça pousse à se former, à former des élèves, voire des collègues.
Oui, mais comme vous connaissiez déjà la chose, vous avez eu peut-être l'envie de protection, mais je pense que toutes les personnes qui n'ont pas le contact immédiat avec les médias ne se rendent pas compte à quel point ça peut être destructeur. Alors peut-être plus maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, avec des affaires qui ont été médiatisées, mais je pense qu'à une époque, effectivement, disons-le, les anciens n'avaient pas forcément ces reculs nécessaires sur la dangerosité des médias.
Ah, mais pas du tout. C'est-à-dire que même moi qui suis moyennement vieux, non, mais on n'a jamais entendu parler dans l'éducation nationale de harcèlement avant le milieu des années 2010, hein, il faut être honnête. C'est un terme, alors que dans les pays nordiques ou anglo-saxons, ils entendent parler depuis les années 70. Donc oui, il y avait un retard français manifeste sur ces questions-là. Mais à tous les niveaux, hein, que ce soit dans l'enseignement élémentaire, hein, ou quand même pas mal d'affaires importantes qu'au collège. C'est un peu moins vrai dans les lycées. Les chiffres sont un peu en dessous, ce qui n'empêche que ça existe. Ça existe aussi dans des établissements très prestigieux, hein. Donc ça touche tous les milieux et tous les types d'établissements.